Radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 1h. Ici, soutient la musique locale.
L'artiste toulousain Pascal Zenou, tout comme toi.
Dont je n'ai rien à te cacher, pas un mot ne sortira de ma bouche. Aucun aveu, rien à déclarer. Je suis plus pieux qu'une sainte étouche.
Pascal Zenou fait vibrer Toulouse avec une pop élégante et habitée où chaque note raconte une émotion vraie. Entre énergie brute et mélodie ciselée, Pascal Zenou signe une musique qui vous attrape dès la première écoute et ne vous lâche plus. Pascal Zenou, tout comme toi, un coup de cœur, ici Occitanie.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici La Rochelle.
Eh oui, bien avant les Vélib à Paris ou les Vélov à Lyon, La Rochelle avait déjà inventé le vélo en libre service. Ce sont les fameux Yélo. Et c'était en 1976, hein, il y a 50 ans déjà, et ils étaient jaunes, évidemment. Nous sommes le 16 juillet 1976 et La Rochelle devient tout simplement la première ville de France à tester le vélo en libre service.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
À l'époque, on met à disposition environ 250 bicyclettes gratuites réparties sur 3 stations du centre-ville. Et le tout est lancé en grande pompe, hein, avec un défilé dans les rues et des journalistes venus voir si cette drôle d'idée pouvait vraiment marcher. Alors, derrière ce projet un peu fou, eh bien, il y a un homme, le maire de l'époque, le célèbre Michel Crépeau, évidemment. Un écologiste convaincu, hein, déjà connu pour ses combats contre la voiture en centre-ville. Et puis, 2 ans plus tôt, hein, il avait même créé d'ailleurs le premier secteur piétonnier de France. Avec les vélos jaunes, son objectif est clair, faire respirer la ville et aussi tester le sens du bien commun chez les Rochelais. Au début, il y a des vols, des dégradations et certains vélos sont même retrouvés très loin de La Rochelle, hein, carrément à l'étranger. Et puis pendant longtemps, bah, ce sont surtout les touristes qui en ont profité. Mais petit à petit, eh bien, l'idée, elle a fait son chemin et elle a séduit un public plus large, habitants y compris. Bicycle, bicycle. Et ce qui est assez fou, c'est que cette initiative rochelaise a très vite fait parler d'elle à l'international. Le New York Times, attention, hein, s'émerveille de cette petite ville française qui, je le cite, hein, lutte contre la voiture avec ses bicyclettes. Ou encore le magazine Newsweek qui dresse le portrait d'un maire agitateur et visionnaire. Pendant ce temps, ailleurs en France, on continue, hein, à imaginer des villes pensées avant tout pour la voiture. Rappelons que les célèbres Vélib parisiens n'arriveront que 30 ans après les Yélo rochelais. Donc oui, les débuts ont été compliqués, mais La Rochelle a tenu bon. Résultat, eh bien aujourd'hui encore, hein, près de 700 vélos jaunes circulent en libre service dans la ville. Alors, après les participants là, du trail urbain du week-end dernier, pensez-y, hein, depuis près de 50 ans, La Rochelle se parcourt aussi à coups de pédale.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Paris-Île-de-France.
Dans le métro avec Julien. Julien, il est historien du métro. Bonjour Julien.
Bonjour Romain.
Nous sommes dans le métro, ligne 1. On découvre des choses assez intéressantes, comme d'anciennes publicités, par exemple.
Et en effet, dans cette station de 1936, enfin de 1900, fermée en 1936, eh bien, il reste quelques publicités de 1936 que l'on verra dans ce terminus.
Le métro, pour vous, c'est quoi? C'est plus qu'une vie, c'est une passion?
Naturellement. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme Obélix, mais je suis mince.
Pourquoi les carreaux, Julien, du métro sont-ils blancs et si symboliques que ça?
Alors, c'est pas un symbole, c'est totalement un aspect pratique. Le métro en 1900, il est brillamment éclairé par l'électricité selon les journalistes de l'époque. En pratique, c'est une ampoule de 15-20 watts suspendue à un fil tous les 4,50 m. Parce que la technologie ne sait pas faire mieux. Donc en fait, on ne voit pas bien clair. Le carreau blanc biseauté, il a 5 faces. Il fait donc 5 reflets plutôt qu'un carreau plat qui en aurait un. Et donc, il va accroître la sensation d'éclairement dans les stations du métro.
Si on devait résumer cette ligne 1 en quelques chiffres, les chiffres marquants de la ligne 1.
Alors, 125 ans, naturellement, 17 millions de voyageurs en 7 mois entre juillet 1900 et décembre 1900. 3 minutes. 3 minutes, c'est l'intervalle entre les trains qui atteint des 1905. On a un métro qui a été extrêmement bien conçu par Fulgence Bienvenue, puisque la ligne 1 du métro, elle n'est pas automatique, elle est automatisée. On a transformé une infrastructure dessinée en 1895, construite à partir de 1898, mise en service en 1900. Et depuis 2012, la ligne 1 est automatique. On a transformé une ligne de métro qui avait déjà plus de 100 ans. C'est dire à quel point nos anciens ont conçu un métro extrêmement astucieux. Le métro d'hier, il fait le présent, mais il fait également le futur.
On va terminer là-dessus, on va descendre du métro maintenant.
Et voilà, vous pouvez également, puisqu'on parle de 125 ans de ligne 1, mais de 125 ans du métro, signaler qu'il y a le livre, Le Grand Paris, P-A-R-I, car c'était un Paris, Le Grand Paris du métro, aux éditions La Vie du Rail, qui permettra à tout un chacun d'en savoir beaucoup plus et de se documenter.
Et à lire tranquillement sur le quai de métro.
Oh oui, ou à la maison, parce qu'il pèse 2,7 kg, il y a 416 pages, 1058 images et 1 million de signes.
Ça en fait les souvenirs. Merci Julien.
Merci Romain.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast Ici Alsace.
À Strasbourg, on a la cathédrale, la choucroute, le marché de Noël et, je ne vous apprends rien, le Parlement européen. Rien que ça. Un symbole mondial qui est coincé entre le Rhin et quelques pistes cyclables, mais c'est un édifice que je visite pour vous aujourd'hui. Je suis devant ce bâtiment immense, tout en verre, tout en courbe. Et c'est vrai que depuis toutes ces années à le regarder, j'ai toujours trouvé que son architecture semblait un peu inachevée. Vous trouvez pas ? Eh bien bingo, sachez que c'est volontaire et que c'est justement pour symboliser une Europe en construction. C'est Angelos qui me l'a dit, c'est mon guide du jour. Il est administrateur au Parlement européen. Il est comme à la maison lui ici, il fonce, hop, sans douter de la direction où il va. Et quant à moi c'est un peu différent. Je regarde partout, il y a des drapeaux, des badges à biper, des gens pressés. Et je dois dire que l'ambiance est quand même plutôt feutrée. La déco est plutôt réussie et la sécurité elle est très sérieuse. Je crois que j'ai dû vérifier au moins 3 fois chaque heure si j'avais bien mon badge dans la poche. Et miracle, je ne l'ai même pas perdu. Ici, c'est un peu comme une petite ville intérieure. Des couloirs partout, des gens qui marchent vite, parfois très vite. Bon, moi, clairement, c'est écrit sur mon front, hein, visiteur, parce que je regarde le plafond, je suis largement impressionné, alors que les autres, beaucoup moins, c'est immense. Tout est simplement immense. Angelos m'emmène dans le fameux hémicycle. Et là, impression de grandeur immédiate. C'est là que siègent les 705 députés pour environ 12 sessions plénières par an, avec au menu des débats publics, des votes, des prises de parole de la Commission européenne ou encore du Conseil, et parfois même des discours de chefs d'État ou de gouvernement. Alors en effet, même si certaines sessions se tiennent à Bruxelles, Strasbourg est le seul lieu prévu par les traités pour les sessions plénières dites « ordinaires ». Et sa tenue à Strasbourg n'est ni symbolique, ni facultative. Non, 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 c'est une obligation légale. Maintenant qu'on est dans l'hémicycle, alors je m'installe et je réalise que chacun des 705 sièges est équipé d'un casque pour la traduction simultanée, soit 24 langues officielles. Et je vous laisse imaginer la logistique derrière tout ça pour connecter le bon traducteur au bon député. Et puis bien évidemment, on trouve les fameux boutons pour voter. Ah bah oui, c'est un peu la base quand même. Strasbourg a été choisi comme siège du Parlement, pas par hasard. Et non, c'est parce que notre capitale alsacienne, à travers son histoire, eh bien, symbolise la réconciliation franco-allemande. Quant à moi, j'ai compris bien des choses pendant cette visite, sauf le plan du bâtiment. Ah oui, j'étais complètement perdu.
Ici,
actu locale, musique et bonne humeur. Everybody. Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Poitou.
Salut les aventuriers, je suis Florentin, votre guide dans les mystérieuses contrées de Défi Planète.
Aujourd'hui, je vous propose de tester une mission un petit peu particulière, mission Areca. On est à Défi Planète sur la commune de Diéné et on va tester l'un des trois parcours proposés. Je vous propose de me suivre.
Que l'aventure commence et à très vite.
Stéphanie, nous voici en plein cœur de la forêt. On est sur le plein des parcours de Mission Areca. Qu'est-ce que c'est Mission Areca ?
Alors Mission Areca, c'est un jeu d'aventure avec plein d'énigmes. Donc vous découvrez à la fois des éléments qui sont liés au développement durable. Vous allez voir comment pouvoir sauver la princesse Areca et surtout voyager sur tout un périmètre, découvrir des villages du monde, la faune, la flore qui s'y rapporte. Donc c'est vraiment un jeu qui s'adresse à tout le monde, à la fois les familles, les enfants. Tout le monde peut participer puisque c'est vraiment tout un parcours très immersif.
Salutations, brave tornade. Mon nom est Tala, l'enchanteresse de l'eau. Votre quête est urgente. Je le sais, car vous devez aider Morgane, le farfadet du clan des Aquanins, à réveiller la mythique pierre de l'eau.
Effectivement, on apprend des choses en s'amusant, et en fait, on n'a pas spécialement l'impression qu'on est en train d'emmagasiner du savoir, mais parce qu'on s'amuse, quoi.
Ben c'est le but, c'est l'objectif, c'est aussi faire travailler chacun, apprendre sur les développements durables et sur des gestes du quotidien sans avoir l'impression d'apprendre en soi, mais vraiment en s'amusant de façon très ludique. C'est pour ça que ça s'adresse à tout le monde, même aux enfants.
Et de façon immersive avec des lieux, des décors et des animaux. Ça aussi, j'imagine que ça marche très bien sur les enfants.
Oui, alors là, il faisait un peu la sieste quand on est passé, mais il y a quand même des animaux, donc assez insolites, puisque des animaux qu'on trouve plutôt en Mongolie ou chez les Berbères, et qui ne sont pas que des animaux du Poitou, même s'il y en a pas mal dans le village du Poitou.
Et ce qui est assez incroyable aussi, c'est que la technologie, l'interaction, elle est partout, même au cœur de la forêt. On ne va pas tout dévoiler pour que les gens viennent essayer par eux-mêmes, mais il y a beaucoup de technologie.
Pour rencontrer Tala, l'enchanteresse de l'eau, passez votre badge Multipass sur le récepteur.
Beaucoup de technologies qu'on a essayé effectivement de rendre quand même accessibles à tous, avec un système de badge où vous déclenchez donc vos propres animations pour vraiment faire votre parcours et découvrir à la fin la princesse.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Limousin.
Francis Magnot, j'ai écrit plusieurs livres sur la franc-maçonnerie et j'en ai fait un sur l'histoire de la franc-maçonnerie à Limoges.
Les Limousins sont formidables. Stéphane Pigato.
J'étais employé d'un petit service public. Je suis entré en franc-maçonnerie après plusieurs sollicitations. J'y étais entré pour la fraternité. Et très vite, j'ai compris que la fraternité n'était que de façade. Et je suis devenu un des spécialistes de l'histoire de cette association. Je suis devenu bouddhiste très prématurément parce que c'est quand le premier moine Tikwande s'est immolé par le feu à Saïgon en 1963, donc j'avais 12 ans. Mes parents étaient tous les deux originaires de la résistance et ils m'ont laissé faire quasiment tout ce que je voulais. Donc je me suis intéressé au bouddhisme, ils m'ont trouvé les rares bouquins qui existaient sur le sujet. J'ai adhéré à la communauté Tunglam Linson, qui est dans le nord de la Haute-Vienne, mais c'est pas un bouddhisme qui me convenait, donc j'ai trouvé ma voie définitive assez tardivement, en 2008, et je suis membre du Fatiao Wao depuis cette date-là, et j'ai écrit un bouquin sur le sujet.
Voilà. Vous allez encore régulièrement au Vietnam ou pas ?
Mais j'y vais moins parce que le paradoxe de la retraite, c'est qu'on a beaucoup plus de temps pour dépenser l'argent qu'on n'a plus. Voilà. Il se trouve que le bouddhisme que je pratique va de la frontière Khmer jusqu'à Saïgon, tout le sud Vietnam.
Et donc c'est des endroits qui sont très dangereux quand même, quoi.
Dangereux en théorie, parce que même la tendance de cette religion qui est noyautée par le Parti communiste, les gens qui en sont membres m'ont donné des documents. Donc dès que j'ai eu ces documents, je les ai fait passer en France dans le but de faire ce livre adressé à mes parents. En disant que ma mère s'intéressait beaucoup à la musique vietnamienne, ils n'ont pas vérifié les CD. C'est parti comme ça de la grande poste de Saïgon jusqu'à Limoges. Et moi, j'ai passé d'autres documents qui étaient interdits de communication parce qu'ils veulent pas que cette religion progresse.
Et qu'est-ce que ça vous a apporté le bouddhisme après avoir vécu donc cette franc-maçonnerie que vous avez, à laquelle vous n'avez pas du tout adhéré? Vous êtes arrivé au bouddhisme. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie concrètement?
Alors ça a changé dans ma vie parce que j'ai eu une grosse épreuve le 18 janvier 94. J'ai perdu une fille de 18 ans dans un accident de la route. J'ai eu plusieurs tentatives d'autolyse, j'ai failli me flinguer plusieurs fois, et si je n'avais pas eu le bouddhisme comme support, je pense que, à l'heure qu'il est, j'habiterais à Louya.
Les Limousins sont formidables à réécouter sur l'appli Ici. Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast Ici Cotentin.
J'aimerais bien être riche parce que je veux bien payer une maison, une voiture. Pas forcément tout ce qui coûte très cher parce qu'on n'en a pas forcément besoin. J'aimerais bien avoir beaucoup d'argent et comme si j'étais au Club des Paris pour bien me nourrir, pour avoir des belles voitures,
pour partir en vacances. Et aussi, si on n'a pas de maison, du coup, s'il a de l'orage, du coup, ça va nous tomber dessus et on va être mort.
On peut être riche, si on a déjà une maison, on peut s'acheter une maison de luxe, des voitures de luxe, par exemple une limousine.
Ma bim, ça voulait dire qu'on était riche.
J'aimerais bien être riche parce que je veux bien payer une maison, une voiture. Pas forcément tout ce qui coûte très cher parce qu'on n'en a pas forcément besoin.
Aussi j'aimerais avoir de l'argent pour ceux qui sont pauvres, pour les aider ou leur acheter une maison et des aliments. Je trouve que ça sert à rien d'être riche parce que on peut être normal, c'est mieux d'être normal parce que quand on est riche, je trouve que c'est pas très gentil parce que ça donne envie aux autres, mais vu qu'ils ont pas assez d'argent, et ben ça leur donne de la tristesse.
Je hais ces gens riches qui, avec un peu d'or, croient réparer les malheurs dont ils sont responsables.
Et ça veut dire quoi être normal?
Ça veut dire avoir de l'argent, mais pas beaucoup non plus.
Est-ce que vous avez envie d'être riche et célèbre?
Non, moi j'ai envie d'être célèbre à la télé, au foot, vu que je fais du foot, j'ai envie d'être célèbre.
C'est bien, vu que au moins si tu prends quelque chose à un magasin et que t'es célèbre et que tu t'es déguisé, et t'as oublié de payer, au moins celui qui vient te chercher, t'as juste à te déguiser et au moins il voit que t'es célèbre et du coup après il dit pardon.
Thank you.
parler à moi, à moi.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Champagne-Ardenne.
Le vol du trésor de la cathédrale, un trésor royal conservé de nos jours au palais du Tau, juste à côté. Mais dans les années 40, ce trésor reposait au cœur même de la cathédrale, dans une petite salle juste à côté de la sacristie. Pas d'alarme, pas de caméra, pas de gardien de nuit. Un autre temps, me direz-vous. Et pour certains, en tout cas, c'était une sacrée opportunité. Tout commence à Paris, le 8 juillet 1946. La nuit tombe, trois hommes montent dans une camionnette. Claudius, Marcel et Ernest. Direction Reims. Leur mission, voler le trésor de la cathédrale. Claudius, c'est le chef de bande. C'est un vieux routier du crime. Un casier judiciaire long comme un missel. 25 condamnations, 15 ans de travaux forcés et 6 évasions. Un sacré jojo, un artiste de la fuite. Et c'est lors d'une visite à Reims, en 1941, quand il n'était pas en prison, qu'il a repéré le fameux butin. Et il s'est dit, quand la guerre sera finie, je ferai mon dernier coup. Et bien dans la nuit du 8 juillet 46, Claudius et Marcel dressent une échelle contre un mur de la cathédrale. Tiens donc, ça nous rappelle le Louvre cette affaire. Ils scient un barreau de la fenêtre et s'introduisent dans la salle du trésor. Devant eux, trois armoires blindées à forcer. Dedans, 150 kilos d'objets précieux. 5 couronnes des sacres de Charles X et de Napoléon Ier. Des vêtements liturgiques brodés d'or portés par les rois de France. Tout y passe. Le trésor est déposé chez un complice. Mais la joie des bandits est de courte durée. Les 5 couronnes, eh bien des copies. Du bronze doré, pas d'or massif. Lucien les fait fondre, les jette dans le canal. Quant aux habits liturgiques, invendables, ils disparaissent dans la nature. Seuls les fils d'or en sont tirés. Les vêtements, eux, ne seront jamais retrouvés. Claudius, fidèle à sa réputation, finit par se faire arrêter. Mais avant le procès, il s'évade une nouvelle fois. La police va quand même le rattraper. Son procès s'ouvre en 1956, devant la cour d'assises de Reims. Verdict, 10 ans de travaux forcés pour Claudius, 3 ans pour ses complices. En 1972, le trésor de la cathédrale de Reims sera transféré au palais du Tau, le trésor de la cathédrale de Reims. C'est évidemment l'un des trésors de Champagne-Ardenne.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Saint-Étienne-Loire.
Notre patrimoine recèle de milliers de secrets qu'on vous fait découvrir tous les jours dans cette chronique. Bonjour Grégory Charbonnier.
Bonjour.
Chef de projet Ville et Pays d'Art et d'Histoire à la Ville et Métropole de Saint-Étienne. Aujourd'hui, on va parler de cette région stéphanoise qui est quand même le berceau d'une grande invention.
En effet, le chemin de fer est né ici. Enfin, plus exactement, le premier chemin de fer d'Europe continentale. Il a été mis au point et en service entre Saint-Étienne et Andrézieux en 1827.
Pourquoi Saint-Étienne ?
À cause du charbon. Les mines de la région extraient déjà beaucoup de charbon et leurs clients sont à Lyon ou du côté de Paris. On cherche donc des moyens de transport qui permettent son exportation. On transporte le charbon jusqu'à Paris par la Loire, par exemple. Mais la Loire est à une vingtaine de kilomètres de Saint-Étienne et il faut pouvoir l'atteindre rapidement. Des ingénieurs comme De Galois ou Bonnier ont fait des voyages d'études en Angleterre et ont vu cette machine qui roule sur des rails, que ce soit à l'intérieur des mines ou pour rejoindre les fleuves afin d'embarquer le charbon. Bonnier fait partie d'une société qui a obtenu de l'État la concession de la ligne Saint-Étienne-Andrézieux. Les travaux se déroulent entre 1824 et 1827. Il faut exproprier, creuser des tunnels, bâtir des ponts, traverser les communes de Saint-Étienne, Villars, La Fouillouse et Andrézieux pour atteindre le port sur la Loire. La première ligne de chemin de fer, après avoir traversé Saint-Étienne depuis le pont de l'Âne, suit le fond de la vallée du Furon jusqu'à la Loire. Bonnier cherche le tracé le plus plat possible et éviter le dénivelé positif. Le premier train est tracté par des chevaux. On descend le charbon jusqu'à la Loire et on le remonte avec des galets, du sable et du bois. À Saint-Étienne.
Peut-on visiter et découvrir les vestiges de cette première ligne aujourd'hui ?
Il ne reste que très peu de choses. L'urbanisation dans les villes et le passage de l'autoroute A47 dans la basse vallée du Furon ont fait disparaître l'essentiel de la ligne. C'est surtout vers l'arrivée, au bord de la Loire, qu'on voit des traces du port. Certaines portions ont été reconverties en route et on peut donc les emprunter à pied ou en vélo. Ou plus simple, pour comprendre cette première ligne par laquelle tout a commencé, et d'aller visiter l'aventure du train, le musée dédié au chemin de fer à Andrézieux-Boutéron.
Merci beaucoup Grégory Charbonnier, à très bientôt pour de nouvelles aventures.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts.
Wikizef, petit guide à l'usage des étrangers du sud du péage d'Arras en vacances dans notre belle région.
C'est les vacances, c'est l'été. Et dire que vous pourriez être fin bénache installé sur votre transat, sur la terrasse du mobilhome à Berck. Et dans votre tête, l'ambiance, ça devrait être du genre...
Samba.
Mais là, on sait pas pourquoi, c'est plutôt... Eh ouais. Je sais pas, vous avez reconnu le Vianney anglais. Je braille quand je chante et je vends des disques à tous les maris brailleuses de la région. Et même en vacances, on peut être dans un jour où on n'est pas dans le mood, quoi. Vous voyez, il y a plein de gens électrisés autour qui courent à la piscine, le cul à l'air ou presque. Et vous, ben, bof, trop de félicité, tu l'as félicité. Vous avez envie de traîner. Toutes les règles d'hygiène habituelles volent en éclats, tout part à volo. Vous allez macérer dans votre jus tout le jour. Et en plus, vous n'avez pas envie de faire à manger. Et votre camarade de transat, qui est dans le même état que vous d'ailleurs, il vous dit « T'inquiète, pour ce midi, je vais à la friterie, je vais prendre du filet américain !» Ne paniquez pas, Wikizef est là pour vous aider. Alors, filet américain, n'y voyez pas une importation américaine de produits étranges, pasteurisés, aseptisés, fadas et caoutchouteux. C'est pour ça que quand un Américain vous propose fromage dessert, dites dessert. Entre deux mots, il faut choisir le moins pire. Et en plus, les Américains, ils n'aiment pas la viande crue, c'est trop naturel pour eux. Donc, le filet américain, qu'est-ce que c'est ?
Définition.
C'est de la viande crue, hachée. Voilà. Au début, c'était du encore vivant, mais on a arrêté parce qu'il court trop vite. Et on mélange la viande hachée de bœuf avec de la sauce. Quant au contenu de la sauce, personne ne sait. Et je dirais même plus que personne ne veut savoir. Voilà. Toutes les informations dont je dispose, c'est la couleur. C'est orange. On dirait qu'on a stabiloté la viande. Après, bon, c'est bien, on la voit dans le noir. Ça donne à la viande crue une légère couleur de petit pot pour bébé. Mais attention, hein. Chapique. Ah, puis, dernière précision, c'est un Belge qui a inventé ça. Enfin, au vu de la susdite description, je sais même pas si c'était la peine de préciser.
Ici,
actu locale, musique et bonne humeur.
Together.
payer le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast Ici Orléans.
Je m'appelle Bertrand, j'ai 28 ans, je viens de Jargeau et je suis contrebassiste.
D'ailleurs, c'est quoi une contrebasse?
Une contrebasse, c'est un des plus gros instruments de l'orchestre.
C'est vrai que vous l'avez devant moi là, c'est absolument énorme. Comment on devient contrebassiste?
Moi, ça a commencé en fait par la guitare. J'ai monté un groupe de jazz manouche quand j'avais 15 ans à peu près. Il nous manquait un contrebassiste et puis j'ai dit je vais m'y mettre. Et depuis en fait, j'ai pas lâché.
Et c'est quand même improbable parce que c'est un instrument qui est quand même pas facile à transporter. Enfin, le truc est plus grand que vous.
Et c'est un peu le drame de ma vie. En fait, de trimballer ça, voilà. Surtout que j'ai pas de voiture, donc là c'est transport, métro à Paris.
Puis ouais, quand vous vous baladez dans la rue, vous êtes remarquable, quoi.
Ah oui, oui. Et puis souvent les gens confondent ça avec un violoncelle. Alors moi je suis toujours là, non, c'est une contrebasse, là, c'est pas un violon, c'est pas un violoncelle.
On commence par quoi quand on découvre la contrebasse?
Comme j'ai commencé par la guitare, en fait, c'est des instruments assez similaires. L'accordage est le même, la technique de jeu est la même.
Donc là il y a quatre cordes.
Quatre cordes, voilà. C'est les quatre cordes les plus graves de la guitare. Donc en fait, pour moi, ça a pas été si compliqué de passer à la guitare. La contrebasse, il y a des choses à travailler, la justesse par exemple. Sur la guitare on a des frettes, donc les notes sont toujours justes. Sur la contrebasse, la justesse c'est l'instrumentiste qui l'a fait, donc voilà, si c'est faux c'est de ma faute quoi.
Et est-ce que vous vous rappelez de votre tout premier concert avec une contrebasse?
Non.
Vous en avez donné combien? Vous avez fait beaucoup de concerts déjà?
Ah oui, ça fait pas mal maintenant depuis quelques années, ouais.
On peut écouter un petit peu le bruit que ça fait du coup une contrebasse?
Ah bah bien sûr.
Mais les cordes, elles sont énormes, elles sont beaucoup plus grosses que celles des guitares.
Ah oui, oui, oui. Et je les change pas comme une guitare. Moi, je les change tous les 2-3 ans, la guitare. Tu les changes toutes les quelques semaines, quoi.
Et ça pèse combien, cette affaire?
Une dizaine de kilos, à peu près. Alors après, moi, j'ai des petites roulettes pour la balader, parce que sinon, ça me fait mal au dos. J'ai un groupe de musique qui s'appelle Minuit Bleu. On fait du coup du jazz manouche mélangé avec de la pop. On a rencontré, avec mon collègue guitariste François, une chanteuse sur Paris qui s'appelle Lisa. Et puis, on a commencé à reprendre, en fait, des titres de pop avec notre répertoire manouche et aujourd'hui on a un projet qui tourne bien.
Premier groupe, vous l'avez eu à 16 ans. Est-ce que c'était cool d'avoir un groupe de musique à 16 ans?
Ah, c'était génial. Je me souviens de mon premier concert payé. C'était pour la fête du travail pour la CGT à Saran. J'avais touché 150 euros. J'étais heureux. C'était génial.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast Ici Paris-Île-de-France.
Paris, c'est le trait d'union, disons-le, entre les cultures. C'est le cas entre l'Alsace et l'Île-de-France. La preuve avec la réussite d'un Alsacien qui va créer chez nous la brasserie Beaufinger, devenue un monument de la gastronomie à Paris. Thierry Boeuf vous y invite, c'est Bistrot de Paris.
Et le cocktail américain, c'est quoi?
C'est un cocktail grillé avec une sauce américaine, tomates, échalotes, une pointe de cognac, du vin blanc. C'est un peu relevé.
Un décaïn!
Pâté, jambon, sauce grillée, gruyère, chantal, rosbif, jambon de pays.
Eh bien, tout ça, ça va aller dans la blanquette.
Bon appétit!
À Paris, subsistent encore quelques mammouths de la gastronomie, encerclés de toutes parts de chinoiseries et de fast-food endémiques.
Sandy, une pointe de sel, un coup de moulin à poivre dans l'aioli, s'il te plaît.
Le dernier rempart de la Bastille se nomme Beaufinger. La résistance est rude, soutenue par des tonnes de guirlandes de saucisses de Strasbourg et de plats de choucroute fumante, où jadis, les critiques Go et Millot aimaient s'attabler.
Henri Go, Christian Millot, vous allez nous faire les honneurs de cette table, qui est certainement l'une des meilleures de Paris.
Elle est surtout réputée pour sa choucroute qui est merveilleuse, je dois dire.
Ça s'appelle Beaufinger et la brasserie Beaufinger a été à partir de 1920 le lit des années folles. Il y avait une assistance très brillante qui venait dans cette vieille brasserie alsacienne avec il y a une salle de peinture de Hancy et on voyait Cocteau, Chaplin, Marie-Laure de Noailles. Tout Paris venait chez Beaufinger, qui était célèbre également pour ses huîtres et son banc d'huîtres. C'est le concurrent de Lip maintenant, vraiment.
Beaufinger est la plus vieille brasserie de la capitale. En 1864, Frédéric Beaufinger, originaire de Colmar, quitte son Alsace chérie pour Paris avec dans ses malles toutes les spécialités de l'Est de la France. Mais le coup de génie du jeune Alsacien consiste à servir de la bière fraîche et mousseuse, brassée à l'air et distribuée à l'aide d'une pompe. Autrement dit, les Parisiens découvrent pour la première fois la bière pression. Repas d'affaires, dîner d'anniversaire, virée entre copains, touristes en goguette, couple légitime, amant pressé. Pour paraphraser André Malraux, Boffinger, c'est comme le métro parisien à 18h. Et même un renfort inattendu vient prêter main forte à la brasserie, en la personne de l'intellectuel et philosophe Roland Barthes.
Les cafés à Paris, chez lui, c'était plutôt le Flore, c'était le Bonaparte,
oui,
c'était son quartier de Saint-Germain-des-Prés.
Oui, c'est ça. Mais le seul restaurant vraiment d'élection, en quelque sorte, qui ne soit pas lié à des opportunités de géographiques, c'est cette manie, dit-il, pour Boffinger. Et il a beaucoup aimé Boffinger dans ces années-là, qui était un restaurant parce qu'il y mangeait du poisson.
Ça, c'était pas du tout dans son quartier, ça.
Non, justement.
C'était un expatrié.
Ça voulait dire que c'était justement un choix.
Envie d'une soupe à l'oignon gratinée, de 6 huîtres creuses de Normandie, de gros escargots de Bourgogne, un œuf mayonnaise, un pâté en croûte, un homard flambé au whisky ou la fameuse choucroute servie depuis 160 ans. Direction La Bastille, qui a fait sa révolution à deux reprises, en 1789, aux commandes des révolutionnaires du Faubourg Saint-Antoine, et en 1864, grâce à un seul homme, Frédéric Boffinger.
Eh bien, je ne sais pas vous, mais toute l'équipe du 7-9, ça nous a ouvert l'appétit avec cette chronique. Les bistrots de Paris, on réécoute sur francebleuparis.fr. Merci à Thierry Boeuf.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast Ici Provence.
Oui, on va terminer la semaine en musique avec ce morceau sorti il y a quelques semaines, Un gramme de terre. Une belle chanson comme Francis Cabrel, c'est les écrire, les composer, les jouer et les chanter.
Une graine qui tombe sur un gramme de terre.
Una grana che si innica dans un gramme di.
Mais pour une fois, il n'est pas seul. Il est entouré d'une dizaine d'artistes qui chantent dans plusieurs langues dites régionales de France. On peut y entendre du basque, du breton, de l'alsacienne, du catalan, du créole martiniquais, du corse et de l'occitan. Dans cette chanson que Francis Cabrel a écrite pour le documentaire sur les langues régionales de France de Michel Feltin-Palas, Une langue de plus, il y a donc deux variétés d'occitan. Le gascon, interprété par Primael Mongauzi, mais aussi du provençal, interprété par Lisa. Voici quelques explications. Le provençal fait partie de la famille de la langue d'oc, ou des langues d'oc au pluriel, peu importe. De Bordeaux à Nice et même des Alpes aux Pyrénées, comme l'affirmait Mistral, on parle une même langue qui se décline en variété ou dialecte. Et parmi ces dialectes, il y a le provençal. Alors oui, il existe quelques radicaux qui, ici en Provence notamment, pensent que le provençal est une langue unique, mais ils sont minoritaires. Hein. Et si on est sérieux quelques instants, sans nier la puissance du provençal, fort de son histoire, du prestige de Frédéric Mistral et du Philippe Brige, et fort de l'identité de la Provence, c'est une variété qui est en intercompréhension avec les autres. L'autre jour, j'étais invité à une émission chez un collègue d'ici Périgord qui parlait dans son occitan et moi dans le mien, le provençal, et on se comprenait parfaitement. Autour de Francis Cabrel, on a donc le plaisir d'entendre Lisa. Née à Aix, autrice, compositrice, chanteuse, Lisa a aussi présenté pendant plusieurs années l'émission en provençal Vaki sur France 3. Vous avez donc dû voir son visage. Et c'est bien en provençal qu'elle chante quelques vers de cette chanson. La racine est profonde, c'est d'elle que nous tenons la fièvre et le courage de jamais renoncer. La racine est profonde, c'est d'elle qui est née.
La racine est profonde, c'est d'elle que l'on tient.
La racine est profonde, c'est d'elle qui est née.
La fièvre et le courage de jamais renoncer.
Le nom de scène de Lisa est Lisa l'Occitane. Et donc oui, elle chante en occitan et le provençal, c'est de l'occitan. Et elle chante avec Francis Cabrel et les autres ce refrain en occitan avec lequel on va se quitter. Une autre graine qui tombe sur une autre graine de terre. Une autre graine qui tombe sur un autre gramme de terre.
Un autre gramme qui tombe sous un autre gramme de terre.
Ici. Actu locale, musique et bonne humeur.
Beast.
étoile filante. Dans un taxi noir et vert, je l'ai perdu à cause d'un tramway. Et sur la plage, je bois des milliers de verres, perdu dans ses yeux verts et oranges.
Ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Vaucluse.
Désolé de vous décevoir, si des Marseillais écoutent la radio, vous avez le droit de rester. Voilà, Jules Pernaut, ce nom ne vous dit sans doute pas grand-chose. Vous explique. Nous sommes en 1915, dans le quartier de la rue des Teinturiers, à Avignon. Jules-François Pernaut, 89 ans, est furax. L'État vient de publier une loi interdisant l'absinthe. Problème, l'usine de Jules-François Pernaut produit une liqueur qui a justement un succès fou à base d'absinthe. Le fiston Jules-Félix Pernaut, oui, ils ont quasiment le même nom, âgé lui de 43 ans, décide alors de contourner cette loi et de lancer une nouvelle boisson, l'anis Pernaut. Nous sommes en 1918. Une boisson constituée à partir d'une essence proche de l'absinthe, sauf que là, c'est de l'anis. 6 ans plus tard, le succès est fou. Il est tellement important que les usines déménagent à Montfavet et puis la firme quitte le Vaucluse pour la région parisienne. Alors jusque-là, tout allait bien pour les Pernaut, mais Paul Ricard est arrivé. En 1932, le Marseillais Ricard fait son entrée sur le marché et obtient le droit de vendre sa boisson, anisée à 40 degrés, soit 10 degrés de plus que la bouteille Pernaut. Et puis le génie de Paul Ricard, c'est aussi le marketing. Hein. Le nom générique à sa boisson sera Pastis, tiré de pastisson. Voilà, ça veut dire mélange en provençal. Et puis il y rajoutera aussi une promesse inédite, le vrai pastis de Marseille. C'est pour ça qu'on pense en fait que le pastis vient de Marseille. Bref, c'est une boisson qui fait penser au sud, aux vacances et à la Provence. Alors je vous passe des années et des années de guerre, il faudra attendre 1975 pour justement enterrer l'âge de guerre entre Pernaut et Ricard, avec la fusion et la création du Pernaut Ricard, aujourd'hui leader mondial dans les spiritueux. Allez, sans rancune, c'est bien connu, l'apéro rassemble, je compte sur vous, hein, avec modération.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Héros.
Vous l'avez forcément déjà remarqué en allant de Palavas à Carnon, ce fortin qui trône au milieu de l'étang du Levant. C'est la redoute de Balestras, une tour de guet qui a passé 60 ans emmurée dans un château d'eau.
Au secours des pirates !
Au milieu du XVIIIe siècle, de nombreux pirates barbaresques arpentent notre littoral et détroussent les navires marchands. Et il y a aussi les Anglais qui se prennent pour les maîtres des mers. Fire ! Pour protéger protéger les populations, Louis XV fait construire tout au long des côtes françaises une série de fortins équipés de sémaphores. Lorsqu'un bateau suspect se rapproche dangereusement, on envoie des signaux pour prévenir les gardes-côtes qui envoient alors au canon quelques coups de semonce. Du Gros du Roi jusqu'à Agde, on construit un réseau de 8 tours de guet. On peut encore voir celle de Frontignan, Marseillan, Sète, au Grand Travers aussi, et donc celle de Palavas. Dès 1743, la redoute de Balestras assure sa fonction protectrice et ça va durer plus d'un siècle. Autour de ce fortin, peu à peu, des pêcheurs installent leurs cabanes et c'est tout un village qui finit par prendre forme. En 1906, on installe sur le toit de la tour une citerne qui va alimenter en eau les fontaines de la commune. Au début du XXe siècle, la station balnéaire, devenue reine des plages, voit ses besoins en eau augmenter. Alors en 1943, la mairie décide de bâtir un véritable château d'eau. Il y a toujours la cuve sur la redoute qui est alors emprisonnée d'un sarcophage de béton. Attendre les années 90 pour la redécouvrir. On détruit le château d'eau pour bâtir à la place le phare de la Méditerranée, 45 mètres avec son restaurant tournant au sommet. Et la redoute, elle, est démontée pierre par pierre par les compagnons du devoir. 300 tonnes de pierres marquées une à une et transportées sur un autre site. Il faudra aussi tailler de nouvelles pierres pour remplacer celles qui sont trop altérées. La ville de Palavas a choisi l'étendue Levant pour reconstruire le fortin à l'identique, dans la même orientation qu'à l'origine. Il trouve au milieu des flamants roses un écrin à sa mesure. La redoute de Balestras abrite depuis le musée Albert Dubout, dessinateur caricaturiste qui a contribué à la réputation de Palavas grâce à ses dessins du célèbre Petit Train. Voilà une bonne occasion d'aller la visiter.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici mène.
Café Boc, merci de nous recevoir depuis votre belle boutique de la rue du Docteur Leroy. Bonjour Henri Lemarié.
Bonjour Roland.
Alors votre actualité déjà avec 2026 dans la ligne de mire, c'est la création d'une franchise, d'un accompagnement également des futurs franchisés. Mais pour en arriver là, c'est quand même intéressant de savoir qui vous êtes et comment vous avez commencé. Moi je vois Café Boc 1932, bon c'est pas vous qui êtes à la tête de cette enseigne depuis 1932, vous les dirigez depuis quand?
Je dirige les Café Boc depuis 2020, depuis octobre 2020, depuis que Bruno Clément, qui avait été là pendant 32 ans, m'a cédé le fonds de commerce.
Allez, des questions très directes. Quel âge avez-vous?
J'ai 56 ans dans quelques jours.
Est-ce que vous êtes sartois de naissance?
Je suis sartois de famille, parce que moi je suis né et j'ai grandi en région parisienne, mais ma famille est originaire du sud de la Sarthe, à Ruillé-sur-Loire, depuis des générations et des générations.
Quelle a été votre formation?
Je suis technicien d'abord et ensuite commercial. Je suis technico-commercial, j'ai commencé par vendre du bien d'équipement industriel.
Le café, pourquoi, comment?
C'est un cheminement, j'ai commencé par l'industrie, j'ai eu envie de quitter l'industrie pour revenir à mes racines familiales qui est l'artisanat. Donc je me suis dirigé vers le bâtiment, donc la ferronnerie d'art. J'ai repris une entreprise que j'ai dirigée pendant 10 ans. La dernière opportunité professionnelle, ça a été d'aller vers encore plus d'artisanat avec la reprise de ce fonds de commerce où on transforme le café vert, le café cru qui nous vient de l'autre bout de la planète, en un café torréfié que l'on vend ici. Et effectivement, les cafés Boc le font depuis 93 ans.
Ça a l'air de bien se passer. C'est quoi les clés de la réussite?
Il n'y a pas de clé de la réussite propre à Café Boc, c'est le clé de la réussite propre à l'entreprise, c'est-à-dire définir un projet d'entreprise, une stratégie, s'y tenir, s'entourer de gens compétents, motivés, de respecter les équipes en interne, les clients en externe, et puis de croire en son projet et de porter la passion.
Henri Lemarié, où vous voyez-vous dans 5 ans?
J'espère que dans 5 ans, les Café Boc seront une marque connue en France pour la défense de la filière et pour la vertu qu'ils porteront.
Parlez-nous du cadre de vie qu'offre la Sarthe, Henri Lemarié.
C'est un cadre de vie exceptionnel. Nos enfants peuvent y grandir. On est proche de cette nature qui nous est si importante. Et aujourd'hui, quand même, la possibilité d'y porter des projets modernes.
Merci beaucoup, Henri Lemarié, de nous avoir reçus. À très bientôt.
À bientôt, Bruno.
On peut se prendre un café là tout de suite.
Allons-y.
Ici.
I heard you calling on the megaphone. You wanna see me?
the pyro, you light the match to watch it blow. A cold bed full of scorpions, the venom stole her sanity.
You saved my heart from the fate of Ophelia.